Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, je vous salue où que vous soyez dans le monde en ce moment même. Après un point sur l'actualité de ces dernières heures, nous allons vous proposer quelques repères dans l'actualité de ces 7 derniers jours grâce au reportage de la rédaction, comme chaque samedi à cette heure-ci, avec aujourd'hui les commentaires de notre invité, notre amie et consoeur Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, dont c'est la rentrée dans l'émission Esprit, notre partenaire. Bonjour Anne-Lorraine.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Vous êtes en forme, vous revenez de vacances ou presque?
Absolument.
Ou presque.
C'est la rentrée de la revue et on est très heureux de la faire aussi avec vous sur RFI.
Et réciproquement. Donc cette rentrée est marquée par le mot sobriété et cela concerne la revue Esprit qui se présente amincie avec 32 pages en moins. Ce qui ne gâche en rien son contenu. Mais
Oui, nous avons fait ce choix de revoir un peu le format du numéro imprimé mensuel qui fonctionne de toute façon en complément de tout ce que nous publions sur le site internet esprit.presse.fr. C'était une réflexion sur l'âge de la surabondance dans lequel on vit, une époque où on a un peu trop de tout, peut-être trop d'informations aussi. Et on a mené cette réflexion en se disant que ça pouvait être un service à rendre à nos lecteurs que de choisir dans l'abondance des textes qui nous parviennent, qui sont des textes d'information et de réflexion, mais de choisir ce qui compte le plus, ce qu'on souhaite distinguer le plus. Alors c'est un exercice très difficile,
j'imagine.
Reçoit 5 bons textes, de se dire qu'on ne peut en publier que 3, mais on pense que ça fait partie de notre métier et du service qu'on souhaite rendre aux lecteurs.
Alors j'ai promis à Anne-Lorraine, en ce début de saison, il y a 3 semaines, de donner une nouvelle positive dans chacun des numéros de ce magazine, faire un pas de côté en quelque sorte. Alors voici celle d'aujourd'hui, cette nouvelle positive. C'est un hommage à la lecture et aux jeunes lecteurs. Avec des millions d'exemplaires vendus et près de 200 livres publiés, cela fait des décennies que l'auteure française Marie-Aude Muraille est une figure de proue de la littérature jeunesse mondiale. Eh bien, à Kuala Lumpur, en Malaisie, son œuvre vient désormais d'être récompensée du prix Andersen, souvent surnommé le prix Nobel de littérature pour la jeunesse mondiale. Notre correspondante Gabrielle Maréchaux l'a rencontrée à cette occasion.
Si Marie-Aude Muraille se dit folle de joie d'avoir reçu le prix Andersen, elle sait pourtant que le lecteur enfant qui la lit n'a pas grand-chose à faire de ce genre d'honneur.
C'est un lecteur qui ne veut pas s'ennuyer, en fait, et qui ne vous fait aucun crédit. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai le prix Andersen qu'on va me lire. Alors que si j'avais le prix Goncourt, il y a des adultes qui accepteraient de s'ennuyer en me lisant. Les enfants, non. Donc après, j'ai ce lecteur qui grandit et qui devient adolescent. Et à ce moment-là, lui, son exigence, c'est que je lui fasse découvrir le monde.
Et lorsqu'elle y parvient, l'autrice jeunesse sait qu'elle peut alors avoir un impact considérable sur son lecteur.
L'enfant lit et relit, il s'approprie le livre, et ça va le marquer à vie. Moi, j'oublie le livre que j'ai lu la semaine dernière, mais mes Tintins, jamais, parce que je les ai lus 36 fois. Et donc, on sait qu'on va avoir une importance. Et ça, je le sais maintenant, parce que ces ados sont devenus adultes. Ils m'écrivent. J'ai un souvenir très, très récent d'une jeune fille qui est venue me dire qu'après avoir lu Vive la République, un de mes livres, donc, elle est devenue altermondialiste et végétarienne. Et après avoir lu Oh Boy, elle a décidé de faire des études de médecine.
Traduite en plus de 27 langues, Marie-Aude Muraille se réjouit aujourd'hui de voir ses livres voyager et potentiellement toucher des enfants sur tous les continents.
Alors, elle n'a rien de vaut le livre, surtout pour les enfants.
Oui, moi je suis très très fan de littérature jeunesse. J'ai eu le plaisir d'en lire beaucoup quand j'étais enfant et notamment dans les pays anglais et américains, en Angleterre, aux États-Unis, où ça fait longtemps que la littérature jeunesse a acquis ses lettres de noblesse. Et j'ai eu le plaisir d'en relire beaucoup avec mes propres enfants et donc d'avoir d'excellents prétextes, par exemple pour relire les Roald Dahl, qui est un de mes héros. Que ce soit Fantastique Maître Renard ou que ce soit Le Bon Gros Géant. Je trouve que ce sont des livres vraiment géniaux qu'il faut mettre entre toutes les mains et à tous les âges.
Bien, rien ne vaut les livres pour les enfants et les adultes, évidemment. Rien ne vaut les revues également, notamment la revue Esprit. Et vous vous intéressez ce mois-ci, Anne-Lorraine, à ce que vous appelez les médias hybrides. De quoi s'agit-il ?
Alors, on a choisi de démarrer cette rentrée avec un numéro sur les médias, ce qui est forcément un peu une réflexion aussi sur nous-mêmes.
Bien sûr.
Parce qu'il est beaucoup question, tous ces temps-ci, d'un rapport contrarié à notre espace médiatique, des mutations de l'espace médiatique contemporain. Et on entend parler de désinformation, de fake news, du pouvoir des algorithmes. Il y a quelque chose d'assez inquiétant dans la description qui est faite de la dégradation du débat public dans notre régime médiatique contemporain. Donc, on voulait y revenir, interroger ces mutations dans leurs multiples dimensions, parce qu'il y a à la fois une mutation de l'économie des médias, il y a une transformation dans les modèles économiques, dans la structure de ce secteur économique. Il y a aussi une transformation dans les usages, les pratiques de lecture, de consommation des médias. Et tout ça a des effets sur la façon dont on se parle, sur le type de discours qui est tenu. Donc, on voulait interroger l'ensemble de ces questions dans ce numéro, et en se méfiant aussi d'une tendance à se dire qu'aujourd'hui, tout va mal et que peut-être l'espace médiatique fonctionnait beaucoup mieux il y a 10, 20 ou 30 ans. C'est quelque chose qu'il faut remettre en perspective, parce qu'à chaque grande période de mutation technologique et d'accélération des changements technologiques, il y a eu des critiques très lourdes adressées que ce soit à la presse, à la radio, à la télévision. Donc il faut aussi remettre ça en perspective de l'histoire longue pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment nouveau ou pas dans ces transformations actuelles.
Sept jours dans le monde.
Anne-Lorraine Bujon, partons maintenant pour l'Ukraine. À noter, nous en parlions la semaine dernière avec Elsa Vidal, la contre-attaque massive de l'armée ukrainienne, une avancée fulgurante depuis 2 semaines, une retraite précipitée qui semble constituer un lourd revers pour Moscou. En revanche, au début de la semaine, le président Volodymyr Zelensky s'est exprimé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux à ce sujet. Voici un extrait de ses propos.
Depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6000 km² de territoire ukrainien dans l'Est et le Sud, et nous continuons d'avancer.
Ça, c'était donc au début de la semaine. Parmi les localités libérées, Kozacha-Lopan, au nord de Kharkiv, à 3 km de la frontière russe, la petite ville est sous contrôle des forces armées ukrainiennes depuis le 11 septembre. Nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio et Boris Vichit ont rencontré un militaire qui a pris part à cette opération.
La région de Kherson, le Donbass et la Crimée, revigorée par les succès engrangés ces derniers jours, ce jeune commandant d'une unité spéciale énumère les prochains objectifs des forces armées ukrainiennes. Il arrive de Kozacha-Lopan, tout juste libéré.
Il y a encore une semaine, c'était très dur. Les Russes tenaient fermement leur position. On essayait de les attaquer, mais au prix de pertes constantes. C'était vraiment très dur. Et avant-hier, c'est devenu plus facile. On a eu des renforts et on est parti à l'offensive. Les Russes ont alors commencé à se retirer, à fuir, en laissant tout derrière eux. Certains ont été faits prisonniers. Il y en avait très peu qui continuaient à résister.
Une petite partie de la région de Kharkiv reste encore sous contrôle russe, à l'extrême est. Mais l'officier est persuadé qu'elle sera vite regagnée.
Ces opérations sont bonnes pour notre morale et cela joue en notre faveur face aux Russes, parce que même dans les zones qu'ils tiennent encore, ils voient ou ils entendent qu'ils sont en échec. Et c'est pour ça qu'ils s'enfuient en laissant derrière eux leur matériel et leur position.
Le commandant en est persuadé, cette contre-offensive signe le début de la fin du régime de l'autre côté de la frontière toute proche.
En Ukraine, les Russes perdent donc du terrain, mais la réaction ne s'est pas faite attendre. Dimanche soir, l'armée russe a bombardé en effet des infrastructures stratégiques, ce qui a provoqué des massives coupures de courant dans l'est du pays. À Kharkiv notamment encore, région dans laquelle les soldats russes refluent massivement, la ville s'est retrouvée dimanche sans électricité. À Kiev, notre correspondant Stéphane Chiot.
Dimanche soir, 11 missiles de croisière russes tirés depuis la mer Caspienne se sont abattus sur des villes du nord-est et de l'est de l'Ukraine, ciblant des usines électriques et des infrastructures d'approvisionnement en eau. Tout d'un coup, Kharkiv, 1,5 million d'habitants avant-guerre, s'est retrouvé plongé dans le noir, le même scénario se répétant à Soumy, à Dnipro, à Poltava, Kremenchuk, Zaporizhia, ainsi qu'à Kramatorsk dans le Donbass. Plus tard dans la nuit, le courant a été partiellement rétabli à Soumy, Poltava et Dnipro, tandis qu'à Kharkiv, un employé a été tué dans la frappe qui a visé la centrale électrique de la ville. Au total, ce sont 9 millions de personnes, soit un quart de la population, qui ont été concernées par ces coupures en eau et en électricité. En droit international, viser des infrastructures civiles est considéré comme un crime de guerre, et la nouvelle a révulsé un grand nombre d'Ukrainiens alors que l'automne et l'hiver approchent et que des hôpitaux sont ainsi mis en danger. Le président Volodymyr Zelensky a également réagi de manière très virulente en déclarant dimanche soir, sans gaz, sans lumière, sans eau, ou bien sans vous, désignant la Russie, on préfère encore être sans vous.
La situation est à suivre, bien sûr, dans nos journaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est rendue jeudi à Kiev, a promis que l'Union européenne soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps, dit-elle, qu'il le faudrait face à la Russie. Elle a demandé que Vladimir Poutine soit traduit en justice pour les crimes de guerre commis depuis le début de l'invasion. Notez aussi qu'une fosse commune a été mise au jour à Izium, une ville reprise aux Russes par l'Ukraine. On vous en parle également. Pendant ce temps-là, les présidents chinois et russes ont affiché jeudi leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux lors de leur première rencontre depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'entretien s'est déroulé en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai dans la ville de Samarcande. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre revue partenaire avec laquelle nous partageons beaucoup de choses depuis plusieurs saisons. Je voudrais que nous revenions sur l'Ukraine et notamment sur un article dans ce numéro de septembre intitulé « La guerre en Ukraine vue depuis les pays baltiques ». Effectivement, cette guerre est vue différemment par rapport au reste de l'Europe.
Oui, on peut dire plusieurs choses à cet égard. D'une part, quand même évidemment, se féliciter de cette contre-offensive ukrainienne qui redonne de l'espoir, mais se souvenir aussi que l'heure n'est pas du tout au triomphalisme et que cette guerre peut encore malheureusement durer un certain temps. Se féliciter donc de quand même du sursaut européen et du soutien apporté par l'Europe à l'Ukraine. On a pu craindre des divisions, des tensions, ou que ce soutien s'affaiblirait. Ça n'est pas le cas. Ursula von der Leyen a été très ferme dans son discours cette semaine. Mais il est vrai que, vu d'Europe de l'Ouest ou vu d'Europe de l'Est, la situation n'est pas tout à fait la même. Alors, dans cet article, « La guerre en Ukraine vue depuis les pays baltiques », Yves Placereau, qui est un spécialiste des pays baltes, où il se rend très souvent et sur lesquels il a souvent écrit dans la revue, nous rappelle que dans les pays baltes, il y a un léger agacement parce qu'ils estiment, eux, avoir compris depuis longtemps que la Russie continuerait ses politiques très offensives et qu'elle ne laisserait pas ni l'Ukraine, ni la Géorgie, ni la Moldavie quitter sa sphère d'influence sans réagir. Et donc, ils ont le sentiment d'avoir prévenu à maintes reprises et qu'on ne les a pas écoutés.
Il faut dire qu'ils parlent en connaissance de cause. L'histoire parle pour eux.
Exactement. Ayant eux-mêmes subi le joug soviétique et s'étant libérés donc, dans les années 90, ayant conquis leur indépendance dans les années 90, ils sont très très sensibilisés à ces questions et ils voient aussi le salut du côté de l'OTAN et du côté des États-Unis qui leur semblent avoir été des alliés plus fiables dans ces tensions avec la Russie que parfois l'Europe ou l'Allemagne, la France ou l'Allemagne que on soupçonne d'être un peu trop conciliants avec le régime de Vladimir Poutine.
Notamment la France.
La France et l'Allemagne, ne pas oublier que la dépendance énergétique dont on parle tellement aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus grave en Allemagne, largement plus grave que chez nous. Donc la question de la politique menée par l'Allemagne vis-à-vis de la Russie est aussi très contentieuse, vue depuis les pays baltes.
Alors, restons en Europe, mais pas dans l'Union européenne, puisque nous allons partir pour Londres maintenant. La dépouille d'Elisabeth II est exposée au palais de Westminster depuis mercredi. Le cercueil a été acheminé mardi soir d'Édimbourg en avion, puis en voiture jusqu'à Buckingham Palace. Emmeline Vint était dans la foule le long du parcours du cortège.
Trois motos, puis le corbillard d'Elisabeth II sous les applaudissements de la foule. Isabelle et Hans fondent en larmes à la vue du cercueil drapé de l'étendard royal.
C'est très émouvant.
Plus que ce que je pensais, on ne peut rien faire d'autre, si ce n'est être là. On a aussi apporté des fleurs, ça fait du bien.
C'est une marque de respect pour tout ce qu'elle a fait dans sa vie.
Les inconnus se tombent dans les bras pour se réconforter. Linda a patienté toute la journée.
En anglais, on dit « tu ne connais pas la valeur de ce que tu as jusqu'à ce que tu le perdes ». Aujourd'hui, je me rattrape pour toutes les fois où j'aurais aimé voir la reine et je n'ai pas pu au cours de ma vie. J'ai presque 60 ans et je suis très contente d'être venue.
Des centaines de personnes ont bravé la pluie, patienté plusieurs heures. Julia, elle, souhaitait dire au revoir à sa reine sans se rendre à la chapelle ardente où on attend jusqu'à 800 000 personnes.
On s'est dit qu'on rendrait hommage de cette manière. C'était le plus simple. Faire la queue pendant deux jours, c'est un peu trop. Et puis nous voulions participer. Les dernières funérailles d'État, c'était pour Winston Churchill dans les années 60. Nous étions trop jeunes.
La dépouille de la reine a été accueillie à Buckingham Palace par ses quatre enfants et ses petits-enfants. Emeline Vallemonde, RFI.
Rappelons que la reine sera inhumée lundi après une cérémonie de funérailles qui s'annonce grandiose. Alors certaines voix discordantes critiquent le coût de ces cérémonies d'obsèques de la reine. Retour à Londres avec Daniel Valot cette fois.
Pas question pour cet habitant de la banlieue de Londres de regarder les funérailles de la reine, pas même à la télé. Robert se présente comme un républicain et trouve excessive l'ampleur des cérémonies, alors que le pays, dit-il, fait face à une grave crise économique.
C'est vraiment déconcertant de voir ça au moment où les gens ont du mal à payer leurs factures. Quelque chose de plus modeste aurait été suffisant, comme dans les monarchies scandinaves ou aux Pays-Bas.
Ces funérailles s'annoncent comme les plus chères de l'histoire du Royaume-Uni. Rien de scandaleux, cependant, aux yeux de cet habitant de Londres.
Oui, ça coûte de l'argent. La famille royale coûte de l'argent. Mais quand on pense à tout ce que la monarchie nous apporte, je pense que ce n'est pas trop cher payé.
Argument récurrent des partisans de la monarchie, les dépenses de la famille royale sont compensées par le tourisme et par le rayonnement qui en découle.
C'est une image de marque qui est connue dans le monde entier et qui sert d'argument de vente aux entreprises britanniques. La monarchie, c'est pas seulement le tourisme, c'est aussi bon pour les affaires.
Critique ou non de la monarchie, les Britanniques s'accordent sur un point. Il faudra que le nouveau roi réduise le train de vie de la famille royale. Mais cela, ce sera après les funérailles.
L'actualité internationale dans toute sa diversité, Anne-Lorraine, allons maintenant au Liban. Dans le pays, les déposants, désespérés par les restrictions drastiques imposées par les banques sur les retraits, ont braqué mercredi deux agences pour exiger leurs économies bloquées. À Beyrouth, Paul Ralifet.
À Beyrouth, une jeune architecte active dans le mouvement de contestation et armée d'un revolver factice a forcé sa banque à lui remettre 13 000 dollars retirés de son compte pour soigner sa sœur atteinte d'un cancer. La scène hollywoodienne, filmée par la jeune femme et par des complices d'une association de défense des droits des déposants, a fait le tour des réseaux. Sally Hafez s'est enfuie en sautant par une fenêtre avant d'accorder tranquillement, quelques heures plus tard, une interview à une télévision locale. À Alay, à 20 km au sud-est de Beyrouth, le braqueur a eu moins de chance. Il a été arrêté par les forces de l'ordre. À la mi-août, le même mode opératoire a été utilisé par un déposant en colère qui a forcé sa banque à lui remettre une partie de ses épargnes pour soigner son père. Son geste a suscité la sympathie d'une grande partie de l'opinion publique. La multiplication de ce type d'actions illustre le désespoir des déposants de pouvoir récupérer par des voies légales leurs épargnes bloquées par les banques depuis 2019. La plupart des juges refusent de recevoir ou d'examiner les plaintes des déposants et le gouvernement n'a pris aucune mesure efficace pour préserver les droits des clients face aux décisions arbitraires et illégales prises par les banques.
À souligner également dans l'actualité internationale que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mercredi de nouvelles attaques à leurs frontières et qu'un bloc inédit réunissant la droite et l'extrême droite a remporté mercredi de justesse les élections législatives en Suède, chassant du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, Anne-Lorraine Bujon, un mot sur Elisabeth II quand même.
Oui, alors la mort d'Elisabeth II a créé une grande émotion un peu partout à travers le monde. Alors il y a certainement de très bonnes raisons d'admirer cette souveraine qui a régné si longtemps, incarné la stabilité, et l'identité de son pays. Mais moi, je m'étonne quand même aussi de la place que cette nouvelle a pris sur nos antennes et sur nos ondes, puisqu'on parle de notre nouveau régime médiatique. C'est vrai qu'il n'était question que de ça en France, où on est peut-être un peu moins directement concerné que les Britanniques par ce décès, le coup des obsèques, etc. Et quand il se passe tout un tas de choses à travers le monde autrement plus importantes peut-être, ou en tout cas aussi importantes comme le montrent vos reportages, je crois que ça nous montre qu'on vit dans un moment où on est dans un... Il y a des phénomènes de fragmentation, de parcellisation de l'information dont on parle beaucoup, mais aussi de surconcentration avec quelques nouvelles qui écrasent toutes les autres. Et ça fait partie des nouvelles réalités médiatiques. De même que le mélange des genres qu'étudient deux de nos auteurs, en particulier dans ce dossier, Jean-Maxence Granier et Éric Bertin, qui sont tous deux sémiologues qui ont coordonné ce dossier. Donc ils expliquent que c'est les frontières entre information et divertissement, mais aussi entre information et connaissance ou éducation qui bougent. Ça fait partie des phénomènes d'hybridation qu'ils voulaient étudié dans leur article et dans ce dossier. Et sur ce mélange des genres, moi je me demande si on n'avait pas eu l'immense succès de la série The Crown, la vie d'Elisabeth II, est-ce qu'aujourd'hui dans les informations, on nous en parlerait autant?
Mais la reine a toujours fait vendre, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, dans un mélange donc de fiction et de réalité, il y a sa vraie vie et puis il y a les versions fictionnalisées qu'on en a, par exemple dans des séries.
Ceci dit, Anne-Lorraine, il faut noter par exemple que sur le continent africain, tout le monde ne pleure pas la reine. Certains se souviennent de l'occupation, de la colonisation britannique, notamment au Kenya, où les Kenyans, beaucoup d'entre eux, se souviennent de la révolte des Momos, qui s'est déroulée de 1952 à 1960, et qui a fait, la répression a fait au moins 10 000 morts, donc par l'armée anglaise.
Il y avait aussi un très bon article dans le New York Times cette semaine qui signalait ça, que bon, on dit beaucoup c'est la fin d'une époque, en plus la mort d'Elisabeth II intervient peu de temps après celle de Mikhail Gorbatchev, et que c'est peut-être aussi là vraiment l'époque de l'Empire britannique, là c'est vraiment une page qui se tourne et qui se tourne définitivement.
La reine laisse un héritage mitigé de la répression brutale des Kenyans dans leur propre pays et des relations mutuellement bénéfiques, a écrit ce week-end Daily Nation, le principal journal du Kenya. Revenons à votre dossier, on ne l'a jamais vraiment quitté, Anne-Lorraine, où évidemment vous vous attardez sur la nouvelle puissance, et quelle puissance, de ce que l'on appelle les GAFAM, c'est en tout cas ce que fait Nathalie Sonnac.
Nathalie Sonnac donc revient sur la nouvelle économie des médias,
les transformations économiques de l'espace médiatique contemporain.
Voilà, et le pouvoir immense qui ont acquis les GAFAM, donc ces nouvelles grandes plateformes Google, Amazon, Facebook, et donc elle souligne qu'il y a ces phénomènes de monopole et de concentration à la fois verticaux et horizontaux, et qui donnent en fait aux GAFAM un très grand pouvoir de pression à la fois du côté de la production des contenus, c'est-à-dire qu'ils influencent vraiment ce qui est produit. Et d'ailleurs, on peut souligner rapidement ce terme de contenu qui s'est généralisé et qui est en fait terriblement vide de sens.
Plus on en parle, moins il y en a.
Voilà, exactement. Donc, ils ont un grand pouvoir de prescription du côté de ce qui est produit, du côté de la production culturelle et médiatique, et aussi du côté des usages des gens qui consomment l'information. Et là encore, je retrouve un mot dans ma bouche sur lequel je m'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire de consommer de l'information plutôt que de s'informer?
Mais donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait votre autocritique en préparant ce dossier.
Alors, mais c'est terriblement difficile.
Tous les journalistes devraient le faire, remarquez.
C'est très difficile. Voilà, on s'interroge aussi évidemment sur nos pratiques. Voilà. Et Nathalie Sonnac explique quels sont ces nouveaux rapports de force et elle conclut sans grande surprise hein, sur le rôle indispensable de la régulation, c'est-à-dire qu'il va bien falloir trouver le cadre réglementaire dans lequel on contraint.
Depuis le temps qu'on en parle.
Ces GAFAM, voilà. Et elle plaide aussi pour que cette régulation se fasse à l'échelle de l'Europe qui lui semble être la seule pertinente pour cela.
Une semaine d'actualité.
Anne-Lorraine, parlons de l'inquiétude en Europe, toujours l'Europe, quant à la question du prix de l'énergie. Inquiétude en France notamment, mais pas seulement. Des mesures ont été annoncées mercredi par la Première ministre Elisabeth Borne, Julien Chabanne.
La salle choisie par Matignon a peut-être rappelé des souvenirs douloureux aux Français. C'est là, rue de Ségur, à Paris, que le gouvernement avait l'habitude de faire ses conférences de presse pendant la crise du Covid. Signe de la gravité qu'Elisabeth Borne voulait donner à sa prise de parole, la Première ministre qui voit le verre à moitié plein. Oui, la facture d'énergie des Français va augmenter, mais ça aurait pu être pire.
Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz et à 15% pour l'électricité en février. Le bouclier tarifaire, c'est une économie d'environ 160 euros par mois pour les Français qui se chauffent à l'électricité, 175 euros par mois pour les Français qui se chauffent au gaz.
12 millions de Français les plus modestes toucheront un chèque d'énergie de 100 à 200 euros par mois au début de l'année prochaine. Mais y aura-t-il suffisamment de gaz et d'électricité cet hiver ? A priori, oui, si tout le monde fait des efforts, rappelle Elisabeth Borne.
Si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure.
Une campagne de communication sera lancée en octobre. Le slogan « Chaque geste compte ». L'exécutif mise encore sur la bonne volonté des Français, mais pas seulement. Elisabeth Borne espère surtout le redémarrage progressif des centrales nucléaires françaises pour faire baisser les prix.
Alors Anne-Lorraine, le même jour dans son discours annuel sur l'Union européenne, la présidente de la Commission a, elle, demandé notamment une réforme du calcul du prix de l'électricité alignée aujourd'hui sur celui du gaz à Bruxelles, Pierre Benazé.
Pour Ursula von der Leyen, jamais encore le Parlement de Strasbourg n'avait débattu de l'état de l'Union à un tel moment, un moment où la guerre fait rage sur le sol européen. Elle ne préconise toutefois pas pour l'instant de nouvelles sanctions contre la Russie. Selon la présidente de la Commission, l'Union a prouvé qu'elle était capable de faire face ensemble. C'est surtout la solidarité des 27 qu'Ursula von der Leyen a souligné à plusieurs reprises, avec les réfugiés, avec l'Ukraine, pour laquelle l'Union continue son soutien financier. Et au sein de l'UE, la Commission répond aux appels pressants des 27 qui demandent instamment une action déterminée sur les prix de l'énergie, dont on sait qu'ils doivent baisser drastiquement pour garantir la poursuite du soutien des citoyens européens à l'aide à l'Ukraine. Il y aura donc, annonce Ursula von der Leyen, une limitation des chiffres d'affaires des producteurs d'électricité nucléaire renouvelable, une taxation des super-profits des compagnies pétrolières et gazières, un ensemble de mesures qui devraient dégager, selon elle, 140 milliards d'euros pour amortir le choc des prix. À plus long terme, la Commission prévoit aussi de découpler les prix du gaz et de l'électricité, puis de créer une banque publique européenne pour soutenir le financement de l'hydrogène.
Vous vous en souvenez peut-être, il y a tout juste un an, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie annonçaient leur union dans le cadre d'un pacte de défense. Une déconvenue pour la France, puisque la création de cette alliance est également traduite par la rupture d'un contrat avec l'Australie, estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros, portant sur la livraison de 12 sous-marins conventionnels. Mais l'Australie, qui a préféré se doter de sous-marins à propulsion nucléaire, risque de devoir attendre très longtemps avant d'en voir la couleur, si j'ose dire, et même de se retrouver au tournant des années 2040 totalement dépourvu de sous-marins. Conséquence, l'Australie pourrait à nouveau se tourner vers la France, a signé mercredi Grégory Pless.
Le coup dans le dos dénoncé par la France il y a un an a de plus en plus les allures d'un coup de bambou pour l'Australie. Le gouvernement travailliste a confirmé que les chantiers navals de ses alliés américains et britanniques étaient dans l'incapacité de lui fournir des sous-marins nucléaires. Aussi, pour éviter de se retrouver totalement à nu, l'Australie pourrait faire l'acquisition de sous-marins classiques. Et d'après la presse australienne, la France est sur les rangs. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Anthony Albanese au mois de juillet, Emmanuel Macron aurait proposé de lui fournir 4 sous-marins. Une information que ne dément pas Anne Genetet, députée Renaissance et secrétaire de la commission défense à l'Assemblée.
Il est normal que la France essaye de saisir une opportunité car nous avons des compétences, nous avons des savoir-faire, nous avons des matériels de haute qualité, c'est quand même pas pour rien qu'on avait signé ce contrat avec l'Australie définitivement en 2019.
En début de mois, la visite à la base navale de Brest de Sébastien Lecornu avec son homologue australien à la Défense donne du poids à cette hypothèse. Mais la marine australienne serait, elle, réticente à cette idée car elle n'aurait tout simplement pas les ressources humaines nécessaires pour prendre en charge un nouveau type de submersible. On en saura plus en mars quand le ministre australien de la Défense dévoilera sa stratégie complète concernant les sous-marins.
Notez aussi que dans le sud-ouest de la France, deux incendies ont brûlé plus de 400 hectares dans le sud de la Charente jeudi, alors que les pompiers de la région, marqués par de multiples feux cet été, on le sait, venaient de fixer, comme on dit, un gigantesque incendie dans le département voisin de la Gironde quelques heures plus tôt. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon et nous parlons de la revue Esprit, évidemment, et du numéro de septembre de cette année, le numéro 489, je ne sais pas pourquoi je dis de cette année d'ailleurs, c'est forcément 2022, dans lequel c'est la première fois que je vois, il me semble, cela dans votre revue, une table ronde de jeunes militants qui parlent de leur engagement et c'est, comment dire, musclé.
Tout à fait, c'est tout à fait musclé. Alors, il nous arrive souvent de publier des tables rondes. C'est un type d'article qu'on aime beaucoup.
Mais sur ce thème,
réunir trois ou quatre personnes autour d'une table pour qu'elles échangent des points de vue qui peuvent être opposés. Ça peut être une occasion d'exprimer des désaccords. Ici, effectivement, ce qui nous intéressait, c'est la question de l'abstention ou du désamour des institutions. On en a beaucoup parlé dans la dernière séquence politique en France, politique et électorale. Et on a beaucoup, notamment, pointé du doigt les jeunes qui se désintéressaient de la politique, qui ne votaient plus, qui n'exerçaient pas leurs responsabilités de citoyens. Alors, il nous semblait que c'était un peu plus compliqué que ça, parce que des jeunes très politisés, on en connaît pas mal autour de nous. Et c'est pourquoi on a choisi d'interroger cinq jeunes militantes qui évoquent leurs différents engagements, qui se situent plutôt du côté de l'antiracisme, du féminisme ou de l'antispécisme, donc ce qu'on peut désigner parfois comme des nouvelles radicalités. Et donc elles évoquent leur rapport à ces causes auxquelles elles donnent beaucoup de temps et d'énergie. Ce sont des militantes très actives et on constate qu'elles sont tout sauf dépolitisées et que, en revanche, la politique institutionnelle, classique, traditionnelle ne leur semble plus du tout répondre à leurs attentes. Donc elles font autrement. Ce sont par exemple des colleuses d'affiches qui pensent que ce type d'intervention dans l'espace public a beaucoup plus de chances de faire avancer la cause féministe que les partis traditionnels.
Autre chose maintenant dans l'actualité, Jean-Luc Godard, ça vous dit quelque chose ?
Eh oui, Jean-Luc Godard.
Il nous a quitté cette semaine, le réalisateur d'un certain nombre de grands films. À bout de souffle, par exemple, Pierrot le Fou, écoutez ceci.
New York Herald Tribune.
Je t'en prends un.
C'est Jean. New York Herald Tribune.
Tu te le rends ? Il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope ?
L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi ?
Moi aussi. New York Herald Tribune.
Maligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses ?
Ce que j'en pense.
Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire !
Non, j'écris !
Ta ligne de hanche.
Maligne de chance,
l'oiseau frivole de nos destins.
Deux extraits de musique connus maintenant dans le monde entier, À bout de souffle et Pierrot le Fou. Cette disparition de Jean-Luc Godard, qu'il faut d'ailleurs ajouter à celle d'Alain Tanner, par exemple, qui est un autre réalisateur, et celle d'Irène Papas, la grande Irène Papas. Cette disparition de Jean-Luc Godard vous a donné envie de vous pencher dans les archives de la revue.
Et oui, c'est toute une époque, comme on entend avec ces extraits qui sont maintenant cultes d'À bout de souffle. Et par curiosité, je suis retournée voir dans les archives de la revue ce qu'on avait pu écrire sur le cinéma de la Nouvelle Vague ou sur Jean-Luc Godard. Et je suis tombée avec un grand plaisir sur un article de Michel Ménil qu'il a publié en mai 1960. C'est au moment où sort À bout de souffle. Et c'est vraiment un très bel article de très bonne critique cinéma qui s'intitule « Le goût du néon ». Et il revient, il fait des jugements très en demi-teinte sur la qualité du cinéma de la Nouvelle Vague. Il n'est pas du tout convaincu par tous les films de Truffaut, de Chabrol. Il est assez critique, mais il dit qu'À bout de souffle a constitué une excellente surprise. Et à peu près au milieu de l'article, il dit finalement la principale vertu de Godard, c'est la lucidité. Donc il souligne la lucidité qui le met à l'abri, dit-il, de la fadeur comme de la bienveillance. Et il souligne que Jean-Luc Godard se révèle être un véritable poète. Il le compare à Rimbaud ou à Lautréamont, rien de moins. Et il dit « comme Rimbaud ou comme Lautréamont, c'est un poète qui a le délire contenu ».
Qui n'avait pas que des amis, en plus, hein.
Non, qui ne cherchait pas à s'en faire beaucoup d'ailleurs. L'article souligne qu'en tant que critique de cinéma, il était assez désagréable. Et c'était pour notre critique de cinéma un mauvais critique. Jean-Luc Godard était un mauvais critique, mais un excellent réalisateur.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Nous attendons vos messages avec toujours autant de plaisir. Quelques dédicaces à des auditeurs fidèles sur le continent africain. Je salue aujourd'hui Laurent à Cotonou, Didier à Ouagadougou, qui est un lecteur de votre infolettre, Anne-Lorraine, on y reviendra tout à l'heure. Bonjour à Emmanuel, qui est médecin à Conakry. Bonjour à Jean-Baptiste à Yaoundé, à Abakar, qui est originaire de N'Djamena, mais qui est étudiant en ce moment à Lyon, en France. Bonjour à Daouda à Bamako, à Papamadou à Thiès, au Sénégal, et à Gaspard à Abidjan. Il nous faut partir pour l'Afrique, donc Anne-Lorraine Bugeon en Éthiopie, avec l'incertitude encore et toujours sur un possible processus de paix, alors que les combats se poursuivent dans le nord du pays. Les insurgés tigréens du TPLF ont appelé dimanche à des négociations sous l'égide de l'Union africaine. Léonard Vincent nous en a parlé. Pendant ce temps-là, les combats continuent. Mercredi, Noé Ochebaudin à Addis Abeba.
Ce sont deux frappes de drones qui se sont abattues sur la capitale provinciale du Tigré, Mekele. La première a visé l'université, la seconde une chaîne de télévision tigréenne, selon les deux institutions. Deux frappes menées par le gouvernement éthiopien qui interviennent 48 heures après une déclaration du TPLF, suggérant pourtant sa disposition à se plier immédiatement à un processus de paix. Outre ces frappes, cette déclaration spontanée n'a toujours reçu aucune réponse officielle du côté d'Addis Abeba. Il y a un mois de cela, le gouvernement d'Abiy Ahmed se disait pourtant disposé à un dialogue sans conditions préalables, n'importe où et n'importe quand. Alors hier, le ministère allemand des Affaires étrangères en a profité pour rappeler publiquement ses promesses à Addis Abeba et l'a appelé à s'engager dans ce processus de paix. Une délégation de conseillers du Premier ministre était présente à Djibouti pour assister aux pourparlers secrets menés par les États-Unis. Elle serait depuis revenue dans la capitale éthiopienne pour consultation. Mais à Addis Abeba, la rhétorique guerrière continue. Le ministre adjoint de la paix assure que des négociations ne commenceraient qu'à la condition du désarmement complet du TPLF.
À suivre donc, l'envoyé spécial du président américain Joe Biden a achevé mardi son séjour de travail à Kinshasa, en RDC bien sûr. Il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi et les deux hommes ont particulièrement échangé sur le développement du secteur minier. Cette visite intervient un mois après celle du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, correspondance à Kinshasa signée Patient Ligotti.
Les États-Unis considèrent la RDC comme un pays stratégique dans l'accélération de la transition énergétique. Et la crise entre la Russie et l'Ukraine démontre que les pays gagneraient à diversifier leurs ressources d'approvisionnement pour éviter, selon Amos Hochstein, que l'économie mondiale soit prise en otage par un seul pays producteur. Et la situation actuelle témoigne, ajoute-t-il, de l'urgence d'accélérer la transition énergétique.
Dans la mesure où nous accélérons la transition énergétique, au lieu d'utiliser l'essence ou le gasoil, nous allons utiliser les batteries électriques. Ainsi, on a besoin du cobalt, du nickel et du lithium. Le territoire congolais regorge de ces minerais. La République démocratique du Congo peut faire partie de la solution pour le monde.
Cependant, pour attirer les investisseurs américains dans ce domaine, les États-Unis posent des préalables.
Nous avons été très encouragés par le président Félix Tshisekedi au sujet de l'intérêt qu'il manifeste par rapport à la lutte contre la corruption. Nous souhaitons que ses paroles se traduisent en action. Dans le secteur des mines, nous voulons voir une réduction significative de la corruption. Si ces progrès se réalisent, vous verrez les genres d'investissements que nous souhaitons voir en République démocratique du Congo.
Selon plusieurs observateurs, ces recommandations visent les entreprises chinoises majoritaires dans le secteur minier en RDC.
Terminons notre voyage africain au Burkina Faso, Anne-Lorraine, où le phénomène des prêches publiques dans la rue prend de l'ampleur. Dans plusieurs coins de rue ou dans la circulation, des prêcheurs diffusent leurs messages aux populations à l'aide de micros. Même si au niveau de certains responsables religieux, on assure que la pratique n'est pas autorisée, elle devient de plus en plus perceptible et cela inquiète beaucoup. À Ouagadougou, reportage de Yaya Boudani.
Aujourd'hui, quand nous parlons de l'enfer.
Avec son matériel de sonorisation de fortune fixé sur sa moto, Abraham Boussim de la Mission internationale Armée du Salut arpente les rues de son secteur trois fois par semaine pour prêcher la parole de Dieu.
C'est moi-même qui vais vers les gens pour les prêcher. Jésus même, lui, il est allé vers les gens. J'aime les carrefours comme cela. C'est pourquoi c'est dans les carrefours, là où les gens sont rassemblés, pour pouvoir délivrer le message.
Une pratique diversement appréciée par les populations. La plupart de celles que nous avons rencontrées suggèrent que ces prêches se fassent sur les lieux de culte.
Il y a des lieux qui sont spécialement faits pour ça. On peut rester dans les églises, les mosquées. Mais passer de 6 mètres en 6 mètres, s'arrêter au bord de la voie, surtout au niveau des feux même, ce n'est pas du tout intéressant.
Pour le sociologue Salia Kone, l'État doit prendre des mesures pour encadrer ces pratiques. Vu le contexte actuel du Burkina Faso, marqué par une exacerbation de l'extrémisme violent.
C'est vraiment un problème qu'il faut prendre au sérieux. Ces prêches dans les rues, à tout bout de champ, ce n'est pas autorisé. Donc il y a un cadre dans lequel vraiment il faut faire ces prêches-là. Je pense également que ça peut être un danger pour la population dans la mesure où il y a également le radicalisme violent.
En attendant, ces prédicateurs continuent à propager leur message.
Notez toujours au Burkina Faso que le ministre de la Défense, le colonel-major Barthélémy Saint-Poré, a été limogé. Cette décision a été prise une semaine après une nouvelle attaque terroriste dans la région du Sahel. Le Burkina Faso qui commence à faire voler des drones armés. Il s'agit d'engins de fabrication turque.
Une semaine d'actualité.
Et nous continuons à parler de l'actualité avec vous, Anne-Lorraine. Je voudrais revenir sur le message que nous a adressé Didier, qui vit donc à Ouaga et qui est un lecteur d'infolettre. Il faut rappeler le principe de l'infolettre.
Oui, tous les vendredis, nous envoyons un mot d'esprit à qui veut s'abonner et dans lequel il y a toujours un petit éditorial d'accroche suivi de trois ou quatre textes qui mélangent des contenus récents que nous avons publiés dans la revue avec des textes d'archives dont nous pensons qu'ils peuvent éclairer précisément l'actualité. Donc on joue de ce dialogue entre hier et aujourd'hui pour voir ce qui peut nous apporter dans la compréhension du monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui.
Et donc il faut rappeler que l'abonnement est gratuit.
L'abonnement au mot d'esprit est gratuit et puis ensuite ça renvoie vers le site où on peut lire les articles en question.
Alors lui s'interrogeait sur votre sujet sur la constitution chilienne dans la lettre du 9 septembre, dit-il. Donc il est attentif et il voulait savoir pourquoi ça n'a pas marché. On ne va pas refaire l'actualité de la semaine dernière, mais il est attentif.
Alors un grand merci à Didier pour sa question et de nous lire avec autant d'attention. C'était le sujet du mot d'esprit écrit de la semaine dernière, l'échec de la ratification donc de la Constitution au Chili.
Qui voulait tourner la page Pinochet. Hein,
exactement. Donc le point de départ, c'est que le Chili a besoin d'en finir avec l'héritage de Pinochet et donc travailler à la rédaction d'une nouvelle Constitution, ce qui a été fait dans un cadre tout à fait nouveau et intéressant, puisqu'on a réuni une convention constituante qui a été chargée d'écrire ce projet de Constitution. Alors, le projet de nouvelle Constitution, il était vraiment largement voulu. C'était un projet qui était très populaire. Donc, on peut s'étonner qu'ensuite, la Constitution en question n'ait pas été ratifiée. Et c'était tout le sens de l'article de François Meunier, qui a été écrit à chaud. François Meunier est l'un de nos auteurs qui vit au Chili. Donc, il a rédigé l'article vraiment dans la foulée de cet échec du référendum sur la Constitution. Et il essaye d'évoquer différentes raisons de l'échec. Et sans entrer dans tout le détail de l'article, non. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un référendum, c'est toujours un peu un référendum pour ou contre le gouvernement en place. Donc, il y a toujours le risque avec un référendum qu'on réponde à une autre question que celle qui a été posée. C'est un phénomène qu'on connaît très bien. Donc, il y avait sans doute un élément de sanction du gouvernement en place qui n'arrive pas à mettre en place ces réformes. Et puis, dans la façon dont la Constitution a été écrite, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites de convoquer de simples citoyens et pas seulement des syndicats, des représentants, des élus, mais que ça a aussi contribué à certaines lenteurs, certaines... Le texte était très, très long. Donc, on va dire que dans ce processus qui était tout à fait original et très ambitieux, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'attendait. Ce qu'il faut dire, je crois, c'est que cette constitution, elle va être remise sur le métier. Donc, c'est un échec, mais c'est un échec provisoire. Et je crois que toutes les parties en présence, toutes les forces politiques du Chili se sont engagées à reprendre ce processus et à présenter une version amendée de cette constitution. Donc, espérons que le processus ira jusqu'au bout.
Alors, il faut préciser, puisque nous parlons de votre actualité, que Esprit, c'est aussi un site qui permet aux auditeurs, singulièrement ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, d'aller voir ce qu'il y a dans la revue.
C'est un site sur lequel nous republions tous les articles qui trouvent aussi leur place dans les numéros mensuels imprimés. Un site depuis lequel on peut accéder à tout le fonds d'archives de la revue Esprit depuis 1932. Je le dis et je le redis souvent parce que c'est vrai que naviguer dans les archives, c'est pour unique. Moi, c'est la source de rencontres voilà, parfois surprenantes.
On l'a vu avec Jean-Luc Godard.
Exactement, avec ce texte de 1960 sur Jean-Luc Godard. Et puis, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on ne publie que sur le site, qui sont par exemple des entretiens filmés ou qui sont par exemple des podcasts, des événements dont il nous arrive d'être partenaires. Comme au mois de juillet dernier, nous avons co-organisé une table ronde avec le Festival d'Avignon et organisé un échange entre deux philosophes et Olivier Py, le directeur du festival. Ça, c'est filmé et c'est mis en ligne sur notre site.
Bien, merci Anne-Laure. Il y a aussi les podcasts.
Il y a les podcasts et bientôt un podcast d'actualité culturelle. Peut-être que certains de vos auditeurs ont déjà eu la curiosité d'écouter À plusieurs voix, qui est le podcast dans lequel nous faisons dialoguer les auteurs d'aujourd'hui avec des textes d'hier. Et nous allons bientôt commencer à diffuser Au grand jour, où là, il s'agit d'aller au théâtre, au cinéma et au musée, là où les œuvres rencontrent leur public.
Merci Anne-Laure, et on se retrouve donc en octobre, le mois prochain.
Avec plaisir.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez retrouver ce magazine, le télécharger sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous également demain pour le magazine Idée, cette fois qui, pour son troisième numéro de rentrée déjà, vous propose une rencontre avec un grand spécialiste de l'Afrique, de la politique et de l'État. Je veux parler de Jean-François Bayard qui publie son maître livre « L'énergie de l'État ». Anne-Laure, ça vous dit quelque chose ?
Jean-François Bayard a souvent écrit dans la revue Esprit, mais je n'ai pas encore lu ce livre.
Et donc les grands esprits se rencontrent demain dimanche, 17h10 heure française, 15h10 temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.